6h46, vous écoutez France Culture. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Mignet. Ça, c'est très conflictuel et pas très consensuel, hein, ces propos.
Lesquels?
Ceux d'Emmanuel Macron.
Oui, on dirait, oui. À lire, à retrouver dans la NRF. Alors, au sommaire des enjeux aujourd'hui, Xavier, donc, la nouvelle diplomatie française.
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
La diplomatie hyperactive, en tout cas, comme le dit le Télégramme, un an de mandat, 43 voyages, 72 jours et un cinquième du temps à l'étranger. C'est bien le bilan statistique diplomatique d'Emmanuel Macron. Bonjour Frédéric Charillon.
Bonjour.
Professeur de relations internationales à l'Université d'Auvergne. Merci beaucoup d'être avec nous. Je crois que vous tenez toujours une chronique pour l'opinion également. Alors, une impression de mouvement rapide, ça c'est sûr, hein, pour le président français qui sort juste d'une séquence à la fois internationale et intérieure avec sa tournée dans le Pacifique. Après déjà une première visite d'État aux États-Unis qui boucle ce rapprochement entrepris en 2017 avec Donald Trump. Alors, quand il était en campagne, vous l'aviez souligné, d'ailleurs Frédéric Charillon, Emmanuel Macron proposait une politique, je cite, à la fois gaulliste et mitterrandienne, avec trois qualificatifs, indépendante, humaniste, européenne. Or, il faut remarquer, comme le disait Jacques Mignet d'ailleurs, que le président s'est fait une mission d'être le symbole d'une France forte, velléitaire et ouverte, d'où cet héroïsme aussi. Il occupe la scène et les forums avec des slogans très connus maintenant, hein, « Make our planet great again » ou des reprises même, « No planet B », c'était Ban Ki-moon qui l'avait dit, et aussi, il faut le dire, des propositions variées de médiation dans le nucléaire iranien, la crise libanaise, les relations de l'Europe avec la Chine. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, il a été jugé comme novice, ce président, mais on voit qu'il utilise un nouveau vocabulaire pour définir des relations particulières, remaçonnage avec les États-Unis, ancrer la relation avec l'Australie, arrimer la Russie à l'Europe. Alors, il y avait une étude de l'IFRI qui qualifiait cette attitude de classicisme agile. Il y en a certains qui penchent plutôt pour un pragmatisme qui se généralise dans les relations internationales. En quoi s'agit-il encore d'intérêt national? Vous posiez la question à Frédéric Charillon déjà l'année dernière. Déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a deux interviews coup sur coup. J'ai été un peu long, pardonnez-moi, mais dans la presse européenne aujourd'hui d'Emmanuel Macron, dans le JDD, l'autre au Spiegel. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un besoin d'explication de cette politique internationale?
Oui. Pas nouveau, à vrai dire, parce que depuis plusieurs années, maintenant, le message de la France est peut-être un peu brouillé à l'étranger. Alors, c'est pas le fait d'Emmanuel Macron, cette fois, parce que ce sont plutôt ses prédécesseurs. Et d'ailleurs, lui-même avait commencé par dire, au tout début de son mandat, qu'avec lui, on le cite approximativement, ce serait la fin d'une dizaine d'années, d'une décennie de néoconservatisme à la française. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il essaye de préciser. Il essaye de préciser son propos de politique étrangère, parce que le message de la France reste en quelque sorte brouillé. Alors, il y a eu un nouvel élément qui est l'élection de ce président, qui a un petit peu fasciné le monde, parce que c'était une élection inattendue, une élection étrange, un président très jeune. Donc, il y a eu un effet, j'ose pas dire un effet people, mais il y a eu un effet curiosité dans le monde par l'élection, du fait de l'élection d'Emmanuel Macron. Maintenant, il faut préciser le contenu de sa politique étrangère. Alors, on a bien compris qu'il voulait la revigorer, on a bien compris qu'il souhaitait que la France soit un acteur moteur des relations internationales, elle a des atouts pour ça, mais qu'en est-il effectivement de cette doctrine de politique étrangère, qu'en est-il de sa vision, et s'il y a une prise de parole aujourd'hui plus forte, plus fréquente que dans les derniers mois, c'est sans doute parce qu'il y a un besoin de préciser le contenu. Je crois que le monde entier trouve intéressante l'élection d'Emmanuel Macron, trouve le personnage intéressant. Maintenant, sur des dossiers précis, que va-t-il faire? Et c'est là qu'on l'attend.
Alors, on va avoir les dossiers précis, mais juste encore une fois sur la ligne, vous dites rupture avec le néoconservatisme. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est la critique en creux, disons, d'une France ingérante auparavant? Une manière de rassurer certains partenaires qu'on a pu offusquer sur la sauvegarde du multilatéralisme, ou une prise de parti claire contre l'instabilité de Donald Trump? On l'a vu aussi suggérer cela.
Justement, ce n'est pas très très clair, parce qu'on a compris qu'il y avait une critique au moins en creux de l'action précédente. On a compris probablement qu'il souhaitait, lui, en tant que président, reprendre un rôle fort, un rôle clé dans la définition de cette politique étrangère et peut-être remettre un peu d'ordre dans un débat franco-français sur la diplomatie, puisqu'il y a ce débat étrange entre est-ce qu'il y a des néo-conservateurs à la française, est-ce qu'il y a des gaulo-mitterrandiens encore aujourd'hui, plusieurs années après le général de Gaulle et François Mitterrand. On a compris qu'il souhaitait maintenant être l'homme qui définit, lui, la vision internationale de la France, en se déterminant probablement par rapport à des actions passées où on a accusé la France d'être à la traîne des États-Unis, d'être plus interventionniste même que les États-Unis, c'est le cas sous Barack Obama. Aujourd'hui, Emmanuel Macron dit « Poutine a compris que je n'étais pas un néoconservateur, que je n'étais pas un interventionniste », donc c'est ça sans doute qu'il essaie de préciser.
Oui, il faut souligner ce fameux coup manqué de l'affaire libyenne. Je crois qu'Emmanuel Macron avait fait référence lui-même. Alors si on parle de relance, justement, ça a été marqué par plusieurs grands discours d'Emmanuel Macron, notamment ce discours de la Sorbonne où il s'agissait de relancer l'Union européenne. Pour l'instant, il y a des annonces qui doivent être faites en juin, mais c'est vrai que là-dessus, il y a eu un événement imprévu pour Emmanuel Macron, c'est qu'il s'est retrouvé tout seul à un moment. Ça explique, disons, la lenteur de cette relance.
Oui, c'est-à-dire que le paysage international n'est peut-être pas tout à fait celui qu'il ou que la France en général aurait pu espérer pour relancer une action diplomatique. Qu'est-ce qu'on sait des idées d'Emmanuel Macron à l'international et qu'est-ce qu'on sait du contexte dans lequel il va pouvoir les développer? On sait par plusieurs discours, vous venez de le dire, qu'il est pro-européen, qu'il prône le multilatéralisme pour régler les grands problèmes du monde et comme méthode, en quelque sorte, que c'est un libéral également, qu'il souhaite parler à tout le monde de tous les dossiers, quel que soit d'ailleurs le type d'interlocuteur, même si l'interlocuteur ne nous plaît pas ou ne lui plaît pas, il faut leur parler. Ça, c'est toujours la vision, la méthode. Maintenant, évidemment, les difficultés connues par Angela Merkel, qui a eu une réélection beaucoup plus difficile que prévu, et aujourd'hui une marge de manœuvre moindre que prévu, d'une part. Par ailleurs, évidemment, la difficulté de discuter avec le président américain, le regain d'autoritarisme aussi dans l'environnement stratégique très proche de la France, parce qu'entre Poutine, Erdogan et quelques autres, la France est maintenant entourée de d'acteurs ou de partenaires plutôt autoritaristes ou qui prônent l'autorité comme vraiment comme méthode internationale. Tout ça fait que nous pourrions être un peu isolés. Évidemment, on pourrait toujours dire il y a juste un Trudeau, il y a des acteurs comme ça, mais ça n'est sans doute pas la configuration, le réseau, les partenariats qu'il souhaitait relancer.
Et justement, isolement même au sein de l'Union européenne, effectivement, avec ce blocage allemand pendant 6 mois. Aujourd'hui, ce blocage, on pourrait dire, ou cette incertitude en Italie, dont Emmanuel Macron avait fait au début de l'année pourtant un pilier, disons, de la relation. Qu'est-ce qu'il faudrait y lire dans ces derniers mois vis-à-vis de l'Europe, quand même? Est-ce que c'est vraiment une relance ou une politique différenciée, une politique des blocs, comme on l'a vu sur la directive travailleurs détachés, par exemple?
Oui, c'est en train de devenir une politique des blocs. Ça, c'est pas le fait d'Emmanuel Macron, c'est le contexte international européen. On a une Europe orientale aussi très très rigide aujourd'hui, très très dure dans les négociations, pas seulement sur les questions diplomatiques, mais en général. Vous l'avez dit sur les questions de travail et autres. Donc ça souligne plusieurs choses. Tout ça, ça souligne d'abord que la France souhaite effectivement reprendre toute sa place dans l'initiative européenne, et peut-être qu'elle avait été un peu bloquée dans les dernières années. C'est vrai, ça fait quelques années qu'on n'avait pas eu le sentiment d'un message français fort ou d'une vision claire pour l'Europe, mais ça souligne aussi que seuls nous ne pourrons pas faire grand-chose, ni seul avec le partenaire allemand. Je crois que nous sommes dans une Europe aujourd'hui où le moteur franco-allemand, c'est toujours quelque chose qui existe, c'est toujours quelque chose de réel, mais ça n'est plus quelque chose qui suffit. Cette idée selon laquelle la France se mettrait d'accord avec l'Allemagne, une fois qu'elle serait mise d'accord, les autres suivraient, ça n'est plus suffisant, nous le voyons bien. Pendant des années, on a fonctionné comme ça, il y avait un couple franco-allemand un peu à la tête de l'Europe, où on avait le sentiment d'ailleurs que souvent les initiatives étaient françaises, que l'Allemagne ensuite donnait son accord et qu'à partir de ce moment-là, tout le reste suivait. C'est ce système qui est arrivé à ses limites aujourd'hui, et paradoxalement, la grande volonté d'Emmanuel Macron de relancer l'Europe et de la relancer avec l'Allemagne, eh bien, montre les limites de ce système. Il faut maintenant travailler avec tous les autres, et aujourd'hui, compte tenu de ce que sont en train de devenir tous les autres, ça n'est pas facile.
Et alors précisément, s'il s'agit d'étendre, disons, ce réalisme à la politique et aux relations internationales globales de la France, parler à tout le monde, là, ça avait été dit par Emmanuel Macron en Arabie Saoudite, il y a eu plusieurs reproches qui ont été faits à cette politique, à la fois opportunisme et puis faiblesse, là on le voit dans la relation avec Donald Trump. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? Est-ce qu'on pourrait vraiment parler d'une politique des axes, comme je l'annonçais en introduction?
Ou alors, c'est là que c'est paradoxal, vous avez raison, soit c'est une politique des axes, on cherche des grands axes, une politique étrangère et des grands partenaires, c'est une question qui se pose, qui s'est posée dans la campagne, qui se pose sans doute encore aujourd'hui dans l'entourage présidentiel, quels seraient nos grands axes et quels seraient nos grands partenaires pour mener des actions, prendre des initiatives, proposer des visions, et puis en même temps, il y a cette volonté de ne pas s'enfermer dans des partenariats trop précis et de parler à tout le monde, ne pas choisir entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. On s'en souvient lorsqu'il y avait une brouille entre les, il y a toujours d'ailleurs entre les deux pays, essayer de réconcilier le Liban et l'Arabie Saoudite avec après l'affaire Hariri il y a quelques mois. Il y a cette volonté justement de ne pas s'enfermer dans un seul camp et d'être aussi un intermédiaire, d'être le pays qui parle à tout le monde. Alors c'est parfois critiquable. On se souvient de quelques polémiques fortes, par exemple au moment de la visite en France du président égyptien Sissi, où il y avait eu beaucoup de débats sur est-ce qu'on a bien fait de recevoir Sissi, est-ce que c'est bien de parler à tout le monde quand vraiment il y a des messages plus clairs à faire passer. Bon, le choix d'Emmanuel Macron a toujours été d'assumer cette position et de dire même si on n'est pas d'accord, on le reçoit.
Oui, avec là aussi une gestion différenciée, on pourrait dire, des relations Al-Sisi, la visite à Xi Jinping ou encore la réception de Erdogan. Dernière chose, alors, politique des axes, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se laisser, disons, entraîner dans des aventures, précisément de manière paradoxale, comme ne le veut pas Emmanuel Macron, dans une position d'ingérence? Là, je fais référence très notamment à la relation à l'Arabie Saoudite et à l'implication de la France dans le conflit yéménite via les ventes d'armes.
Oui, ça c'est toujours. Il y a un certain nombre de dossiers effectivement qui sont plus épineux que d'autres parce qu'on voit que la question de l'agir sur la scène internationale heurte aussi des sensibilités dans le débat interne. Alors évidemment, la question de la relation avec l'Arabie Saoudite, ça fait partie de ces dossiers particulièrement difficiles parce que l'interne rejoint l'externe, c'est-à-dire qu'il y a d'une part des considérations internationales évidentes. Qu'est-ce qu'on fait de ce partenariat avec l'Arabie Saoudite qui est important à plusieurs égards, aussi bien politiquement que militairement, que économiquement. Et puis, on sait aussi qu'on a là des puissances, on a là des pays qui sont eux-mêmes engagés dans des conflits dont la situation, y compris humanitaire, fait débat, y compris en France. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il va y avoir une difficulté pour Emmanuel Macron, mais comme pratiquement tous les dirigeants aujourd'hui, c'est d'ailleurs que l'interne rejoint l'externe. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité très forte de définir des actions internationales avec. Et pour ça, il faut trouver des partenaires. Et pour trouver des partenaires, il faut parler avec tout le monde. Il y a un moment où le débat interne rattrape tout cela en disant, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il faut parler avec ce pays ou avec cet acteur?
Et bien voilà, Emmanuel Macron, pas si isolé finalement sur la scène internationale. Merci Frédéric Charillon, professeur de relations internationales à l'Université d'Auvergne. Et demain, on parle de la Tunisie.